Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
16h30 et nos invités s'appellent Romuald Beugnon, cinéaste et inventeur, et DJ Zebra, musicien et producteur. On est ensemble jusqu'à 17h. Tout le monde change de place aujourd'hui sur France Culture, vous l'avez compris. Et c'est très bien comme ça, quand le repère s'installe, il faut savoir le bousculer, ça aide à mieux voir le monde. C'est comme quand on change le lit de place dans sa chambre, ça vaut tous les voyages, on change d'horizon, le dépaysement est à portée de main, mais si. Au point qu'il est temps de sortir enfin des cartons un autre grand projet, le jumelage des émissions de France Culture entre elles. Imaginons par exemple que la présente émission, pas la peine de crier, se marie avec On ne parle pas la bouche pleine d'Alain Crugère. On pourrait ainsi écouter Pas la peine de crier la bouche pleine. Pareillement, imaginons La dispute intérieure, qui serait issue du rapprochement de La dispute d'Arnaud Laporte et de L'atelier intérieur d'Aurélie Charron. Et en discutant avec Hervé Gardette, nous pourrions monter l'atelier du son à Moudre, qui ferait du bruit, à n'en pas douter. Deux émissions qui s'additionnent pour en donner une troisième. 1 plus 1 égale 3, c'est précisément le principe de ce qu'on appelle le mash-up. Et hop, ça nous met déjà dans le thème d'aujourd'hui. Comme par hasard, bienvenue à vous, c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, le Polaroid du jour sera un sonaroïde, et oui, vers 16h20, un cinquième temps d'une semaine consacrée au mélange. On ouvrira donc la conversation avec DJ Zebra et Romuald Beugnon pour parler donc du mash-up, mash-up et bootleg, avec force illustration. Et tout de suite, la comédienne Delphine Rich termine de déballer sa bibliothèque devant Romain de Bec de Lièvre. Elle lit l'extrait d'un texte d'Aimé Renaudin, Aimé au bout de la table, la chronique romancée sur une famille bourgeoise au début du XXe siècle.
Car elle montait mieux que ses frères aînés depuis l'âge de 9 ans. Et quand son père se vantait d'un de ses fils, ce qui arrivait rarement, et seulement sous l'emprise de l'alcool et en l'absence des intéressés, il répétait toujours la même chose à son sujet, de sa voix traînante. « Mon dernier, les gars, je vous jure qu'il serait capable de vous faire voler un âne à coups de cravache !» La vérité, car elle la savait, même s'il n'était pas capable de la mettre en mots, c'était que le cheval désirait la cravache exactement comme lui appelait de ses voeux la lanière de cuir de Vaclav, la morsure cuisante et nette d'une attention sans partage, le seul contact physique qu'il ait connu avec son père. Le corps ramassé juste au-dessus de la selle, il s'étonnait comme toujours de voir que plus le cheval allait vite, plus son mouvement devenait fluide. Des années plus tard, il retrouverait la même impression dans l'amour extrême, la confusion et la convergence de violence et de tendresse. Mais ce soir-là, il ne ressentait que l'excitation nerveuse liée à la vitesse, le bouillonnement brûlant de peur et de joie qu'on éprouve que dans ce genre d'abandon. Il galopait pour remporter la mise sur les terres d'un autre, galopait pour ce père qui avait refusé de le prendre dans ses bras le jour de sa naissance, pas plus d'ailleurs qu'aucun autre jour par la suite, galopait à travers des ténèbres que son regard éclairait peu à peu en s'y accoutumant. Et tandis qu'il abattait de temps à autre sa cravache sur la croupe de sa monture, il surveillait Billy Dalton du coin de l'œil, s'assurant qu'il ne perdait pas de terrain et qu'il le laissait sur son flanc extérieur tandis qu'il s'approchait du petit bosquet de chênes autour duquel il leur faudrait prendre leur virage avant de repartir vers les brasiers et leur père campé sur la ligne d'arrivée. Whisky, le plus jeune et le plus rapide des deux chevaux de course de son père, semblait vouloir tout donner. Déchiqueter des arts et des arts de mottes de terre avec ses sabots et emplir la nuit du souffle ardent de ses naseaux. Car elle sentit, en serrant les cuisses pour faire prendre au cheval le virage à la corde par la gauche, le ruban de muscles qui ondoyait sous la peau de l'animal et le tremblement de résistance qui le traversait à la plus légère tension exercée sur les rênes. Mais là, sous le bouquet d'arbres aux troncs moussus et aux branches basses et squelettiques, le fils d'Alton se leva sur ses étriers et obliqua brusquement derrière Carrel pour contourner l'obstacle dans l'autre sens. Whisky tourna vivement la tête vers la gauche et allongea le pas. Carrel lui donna un coup de cravache sur le flanc droit et s'accroupit dans le virage, maintenant sa monture tout près des arbres et à cause de la torsion de son cou, il ferma les yeux pour se protéger des rameaux qui lui fouettaient le visage et l'épaule et lui arrachaient des touffes de cheveux au passage. De là où il se trouvait, il ne pouvait plus voir le fils d'Alton qui faisait le tour du gros bosquet d'arbres en sens inverse. Et pour Carrel, il n'y avait désormais plus que le bruit du vent et le claquement des sabots, le souffle chaud et haletant de sa monture, le souvenir de son père quand il lui avait tendu la cravache une demi-heure plus tôt, les quelques secondes d'hésitation avant que les deux chevaux se rejoignent, presque au paroxysme de leur vitesse. Plutôt qu'il ne l'aurait cru, car elle, en relevant les yeux, aperçut le cheval de Dalton qui fonçait droit sur lui, Billy penché en avant sur la crinière de sa pouliche battue par le vent, son regard déterminé filtrant à travers ses paupières presque closes. Tout dépendrait de qui saurait maintenir son cap et de qui s'en écarterait, et Carrel savait que ce serait un cheval ou l'autre, plutôt que son cavalier qui prendrait cette décision si on le laissait faire à la dernière seconde. Et Carrel comprit aussi que les choses ne devaient pas se passer comme ça. Quand les chevaux se retrouvèrent à moins de 10 mètres de la collision, Carrel enfonça son genou dans le flanc gauche de Whisky, qui s'écarta d'un bond de la ligne des arbres. Et au moment où les coins des lèvres du fils Dalton esquissaient un sourire et qu'il se penchait plus en avant encore, pensant qu'il venait de remporter un avantage décisif, Carrel ramena sa cravache d'un geste vif, et quand les chevaux se retrouvèrent côte à côte, il fit ce que son père lui avait commandé de faire.
Delphine Rich, vous venez de nous lire un extrait du « Sillage de l'oubli » de Bruce Machard. C'est le récit d'une chevauchée haletante. Pourquoi ?
Alors écoutez, c'est un livre que j'ai découvert grâce à ma librairie. C'était le coup de cœur de la librairie. De temps en temps, j'aime bien comme ça me laisser faire. Et je n'ai pas été déçue. C'est un livre que j'offre beaucoup, qui se passe au Texas en 1895. Ça démarre, c'est un propriétaire terrien qui est un immigré tchèque, qui, dès le premier chapitre, va voir mourir la seule femme qu'il aimait et qui, en mettant au monde son quatrième fils, qui est Carrel, qui est le héros du livre. Et il va entraîner, vaincu par cette douleur terrible, il va entraîner ses enfants dans une vie extrêmement austère et brutale. Seul compte pour lui ses chevaux de course. Donc son fils Carrel, visiblement, est très doué pour ça. Voilà, sa seule commune. Il ne peut pas aimer ce fils puisqu'il est responsable de la mort de sa femme, mais qu'il est quand même extrêmement doué pour la course. Il va s'en servir et il va aussi faire des paris qu'il va lancer contre ses voisins pour gagner de plus en plus de terres. Et puis il va rencontrer un riche Espagnol qui va lui proposer un pari un peu particulier qui va engager ses frères avec ses filles s'il gagne la course. Et il va devoir concourir contre une jeune femme qui a l'âge de Carrel et dont il va être extrêmement séduit. Donc ça va être compliqué pour lui de battre cette jeune femme. C'est un livre qui m'a plu parce qu'il est très rude, très âpre. Ce sont des taiseux, ce sont des gens qui vivent là aussi, dans les non-dits. Ils ne peuvent pas communiquer. La seule façon de communiquer, c'est à travers les chevaux. Donc il y a des courses de chevaux absolument incroyables où on est vraiment pris. Il y a des guerres fratricides. C'est un roman qui sent l'alcool, qui sent le tabac, où il y a des paysages absolument incroyables. Ça sent aussi les coups de cravache. C'est un livre qui est très rythmé. Il y a des courses de chevaux, mais pas que. C'est très intense. C'est un livre aussi sur la rédemption.
Et pour vous, les 5 textes que vous avez lus ont un certain rapport aussi avec cette brutalité, ce côté...
Oui. Et alors écoutez, en dehors du livre de ma grand-mère, j'étais assez surprise parce qu'une fois que j'ai fait mon choix de livre, je me suis dit, oula, mais il y a quand même un lien entre tout ça. Donc j'avais pas du tout pris conscience. En fait, j'ai choisi des romans qui m'ont marqué ou qui m'ont rappelé une certaine époque, comme Don Quichotte, mais qui est aussi lié à une nostalgie de quelqu'un que j'ai perdu. Et oui, ça a trait à la solitude, au non-dit, à la folie, à la nature.
Quel morceau vous avez choisi de faire entendre après cette lecture ?
Alors, Isia Higelin, Let Me Alone.
Turn off the light, I'm not afraid. Let me alone, I'll be okay.
crois qu'elle l'a dit. Let Me Alone, Parisia Higelin, proposé à vos oreilles par Delphine Rich, qui terminait de s'entretenir avec Romain de Bec-de-Lièvre à côté de sa bibliothèque. Et elle a lu un texte de Bruce Machard, oui, issu de son livre Le sillage de l'oubli. C'est bien, pas la peine de crier dans une journée sans dessus-dessous sur France Culture. Il y a comme un bruit, un sonaroïde en lieu et place du traditionnel Polaroid. Les yeux fermés. La confiance, quoi. Les yeux fermés, pas d'image, pas de flash, pas de vision. Se laisser guider. La confiance, quoi. Et on attrape la grande improvisation quotidienne. Stationné en plein milieu, on écoute. On s'écoute les uns les autres. Quoi qu'on en dise, on se capte. En mode menace, d'abord, et oui, oreille archaïque toujours sur le qui-vive. Dans notre tête, quoi qu'on en dise, il y a toujours un mammouth au coin de la rue, même dans la grande métropole, surtout dans la grande métropole. Oui, d'accord, mais ici, soyons précis, qu'entendez-vous par là ? D'abord, distinguer, classer, ordonner. À un bout, les bruits parasites à retirer, les sons contingents, ce qui ne compte plus. Une accélération mécanique, des bruits de pas, un éclat de voix. Procédons par amoindrissement. J'efface. À l'autre bout, l'essentiel invisible pour l'oreille, craquement tellurique et étirement de magma, auquel répondent sans aucun doute quelques éruptions solaires et des pétarades extraterrestres. Oublions-les, nous n'avons pas les outils pour en rendre compte. Mais alors, quoi ? Demande le malentendant. Alors ça se décante comme malgré nous. Alors une note. Une note timide qui reste la même au fond, là-bas, peut-être provoquée par le vent sur une pierre, ou sur des feuilles posées sur des pierres, du costaud, quoi. La note, au début, on ne l'avait pas remarquée, mais quelles que soient les vibrations autour, elle demeure. Elle s'enroule autour, accompagne, salue de loin, revient devant. Une basse continue. Mais il n'y a pas que ça, excusez-moi, c'est trop bête. C'est bateau, c'est bien, mais c'est trop. Non, oui, quand même, c'est ça. Débarrassé de tout, il reste, derrière cette vibration basse et continue. Oui, c'est bien ça, doucement et régulièrement. Un cœur qui bat. Thank you. Fabio Viscogliosi Catch a Wave sur l'album Spazio. Catch a Wave qui peut se traduire par attraper l'onde. On jongle donc aujourd'hui toute la journée, les uns prennent la place des autres, les voix prennent les places des autres, mais il y avait un thème toute cette semaine dans Pas la peine de crier, le mélange. Et s'il fut question depuis lundi de métissage, de génétique, de mixité, de cut-up, il restait un mode de mélange à traiter, ce que nous allons faire cet après-midi dans la continuité de Marie Richeux, un thème hautement actuel à aborder, le mash-up. Bonjour Romuald Beugnon.
Bonjour.
Bonjour DJ Zebra.
Bonjour.
Romuald Beugnon, vous êtes cinéaste et vous avez inventé une mash-up table qu'on va prendre le temps cet après-midi d'expliquer, de décrire, une table de mash-up, voilà.
Oui, une table de montage.
Une table de montage, une vraie table. Il va être plutôt question d'image avec vous, mais pas seulement.
Pas seulement.
Pas seulement. Et en face de vous, donc DJ Zebra, vous avez été un des grands promoteurs et inventeurs du mash-up musical en France, notamment en France.
Alors oui.
Vous dites que vous êtes sorti du mouvement. Vous êtes sorti du mouvement mash-up bootleg, mais vous avez fait ça pendant plus de 10 ans.
Oui. Je me suis bien marré.
Ouais. Mais on va écouter des choses, évidemment, cet après-midi, des choses que vous avez faites. Et effectivement, la dimension de l'amusement. Un bon mash-up est-il un bon bootleg? Est-il un bootleg aussi drôle? Ça, c'est une question qu'on peut se poser.
C'est une œuvre subversive avant
tout. Ouais. Bah, j'ai une première définition. Est-ce que le mash-up, est-ce qu'on peut dire que c'est un art de lier deux œuvres ou plus, parfois, les lier sans les annuler, tout en faisant que ce lien nouveau crée une nouvelle œuvre? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Je trouve ça assez bien, ouais. Moi j'appelle ça un mariage forcé, parce qu'en fait ce mélange n'appartient pas aux auteurs originaux, on est là un petit peu comme des marionnettistes en train de créer un assemblage virtuel. C'est ça qui est assez amusant finalement, je trouve que du moins dans le domaine musical, ça a été le seul véritable mouvement novateur dans les années 2000, dans le sens où il n'appartenait plus au créateur d'œuvres originales lui-même, mais c'était une espèce de recyclage, une façon de refaire quelque chose avec des œuvres existantes, et en ça c'était complètement nouveau.
Ouais. Et c'est un truc de pirate le mash-up?
Ah oui, complètement. Ouais, c'est pour ça que je parlais de subversion, c'est-à-dire que... Il n'y a plus de problème de droit, c'est un exercice extrêmement libre, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien, on détruit tout et on recompose tout.
Romuald Beugnon.
Oui, bah, le mash-up c'est un petit peu un mot valise, on en a tendance dedans à émettre le remix, le found footage, beaucoup de pratiques visuelles ou sonores, mais effectivement pour qu'on parle de mash-up à proprement parler, il y a peut-être l'idée comme ça qu'on reconnaît les œuvres originales et qu'on s'amuse avec, mm-hmm. et que chacune des œuvres originales propose quelque chose sur l'autre, mmh. aussi. Donc il y a vraiment 1 + 1 = 3, comme vous disiez tout à l'heure.
Ou 0. Parce que quand on assemble des énergies, soit elles s'annulent, soit elles se complètent.
Mais quand c'est réussi, ça peut être 0, non?
Ah non, ça peut être 3. Mais moi, je me souviens de mélanges que j'ai voulu faire en me disant, voilà, une œuvre très forte mélangée à une autre œuvre très forte. Et bien, les énergies s'annulent. Ça peut arriver que ça aboutisse à 0. Ouais.
J'ai vu ça au cinéma aussi, parfois.
Ouais. Est-ce que mash-up, c'est aussi un terme informatique, Romuald Beugnon? Vous avez donc fabriqué cette table dont on va parler, mais ce qui est aussi un objet technique, technologique même. Je crois que votre parcours passe par le monde numérique. Mash-up, c'est très lié aussi à la question de la technologie.
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, mash-up, c'est faire de la purée. Tout mash-up,
c'est vrai, voilà, oui, les mashed potatoes. Oui.
Voilà, donc en fait, on fait de la purée de film, on fait de la purée de son, on peut faire de la purée de ce qu'on veut. Hein, dans l'Antiquité, on faisait de la purée de Virgile et on recréait des poèmes. C'est pas un phénomène nouveau. Là, c'est un terme un peu hype pour en parler, mais c'est pas non plus un phénomène très technologique.
Oui, mais il y a quand même des outils et des réservoirs d'œuvres qui sont maintenant à disposition, qui n'était pas le cas il y a encore même une quinzaine d'années.
Oui, ce qui est nouveau, en fait, c'est l'accessibilité des médias, que ce soit de la musique, que ce soit des vidéos, que ce soit par le piratage, hein, que j'approuve, ou par des vidéos ou des sons libres de droit. Donc on y a accès beaucoup, beaucoup plus facilement, et aussi on a beaucoup plus facilement la possibilité de diffuser son travail. C'est ça qui est nouveau. Mais sinon, la pratique a toujours existé du point de vue des artistes. Et ce qui est nouveau, en fait, c'est que c'était des artistes parfois même très, très pointus. Parfois, c'était quelque chose qui était au niveau de la politique, voire de la philosophie, parce que les détournements de Guy Debord, des choses comme ça. Et c'est passé au public. Mm-hmm. Et c'est devenu maintenant les vidéos virales et tout ce qu'on peut voir en ligne.
Oui, c'est une histoire. Vous citez Guy Debord, vous parliez de subversion à l'instant, DJ Zebra. Oui, il y a d'emblée l'idée de reprendre aussi une forme et rester dans la même forme. C'est-à-dire que vous proposez, vous, DJ Zebra, des morceaux, des chansons, quoi, des morceaux de musique. Vous n'inventez pas une autre forme, ça reste dans le même, dans le même champ.
Non, non, on reste dans un fantasme quand même. C'est-à-dire qu'on utilise des œuvres déjà, entre guillemets, cramées, dans le sens où elles sont déjà acceptées par le public. Mais pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on parle de choses créatives, nous, parce que nous sommes des créateurs et qu'on a une idée derrière tout ça. Mais quand même, le mash-up, ça a tellement désacralisé l'envie de mélanger les choses que finalement tout le monde s'y est reconnu, et c'est ça qui a permis à des non-artistes qui ne se proclamaient pas comme des artistes, justement, qui étaient même anti-artistes, de se dire bah, moi aussi je peux le faire, chez moi, avec mes outils, et parce que les plateformes le permettaient. Moi, je vois par exemple YouTube, il y avait un gros débat depuis 2 ans où YouTube veut inventer une machine à faire du mash-up sur sa plateforme en utilisant le contenu qu'ils ont déjà en ligne. Et là, on est rentré dans les gros problèmes de droit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut laisser tout le monde faire tout et n'importe quoi. Nous, on est dans l'idée, donc on est quand même quelque part acceptable ou respectable, mais après, bon, tout est ouvert, quoi.
Camille Saint-Saëns, le carnaval des animaux que vous nous proposez en écoute, Romuald Beugnon, parce que c'est voilà ce que vous disiez, le mash-up date. Là, on est dans la variation, la citation, mais c'est aussi du mash-up. Vous dirais-je maman, frère Jacques ?
Oui, ben ça, c'est Camille Saint-Saëns, c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire du cinéma parce que c'est l'auteur de la première bande originale de film écrite. Et pour le premier film d'art, entre guillemets. Et dans cette œuvre-là, c'était un compositeur qu'on accusait d'être trop sérieux. Donc, il a voulu parodier un de ses propres morceaux, la danse macabre. Et il a mis plein de petites ritournelles. « Ah, vous dirais-je maman ?» On entend un petit bout de « Au clair de la lune ». Et c'est du mash-up, du cut-up ou du recut, tout ce que vous
du
voulez.
Du collage aussi, voilà.
Oui, tout ça est parfois des frontières un peu floues ou en tout cas partagées. Et c'est pas du sample le mash-up, mais il y en a aussi. Comment vous avez découvert et pratiqué les premiers mash-up, DJ Zebra?
En fait, c'est la culture DJ qui l'a permise. Les DJ ont, même surtout les Anglais. Parce que les Anglais, même au niveau culinaire, sont réputés pour mélanger l'immélangeable. Donc dans les années 80, les DJ, bah, je crois que le plus lointain souvenir qu'on a comme ça d'assemblage, c'est Mars avec Pump Pump the Volume, qui était un gros tube de la culture électro-anglaise dans les années 80. Et là, il y avait 80 samples, pas loin dans le titre, et c'est sorti comme ça. Et là, la première fois, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait dans le sample, qu'est-ce qu'on fait avec. Le hip-hop est passé par là derrière. Et il y avait toujours un créateur derrière ça qui proposait une œuvre soi-disant originale. On était plus dans l'utilisation pour recréer quelque chose d'original. Là, le mash-up, il arrivait vers la fin des années 90, surtout en Angleterre, quand les DJ se sont dit, tiens, on aimerait bien remettre du rock sur les pistes de danse, alors que ça avait complètement disparu. Donc on va s'amuser, on va mélanger un gros tube de rock à un tube de rap ou de R&B. Et il y avait des acapellas qui traînaient sur les maxis. Il y avait toujours du Beastie Boys, du Missy Elliott, du Eminem.
Et c'est bien pratique l'acapella parce qu'il n'y a pas l'accompagnement avec, donc par définition. Et donc pour remixer, pour mélanger, voilà, c'est ouvert.
Voilà, ils ont sorti ça et ils ont appelé ça des bootlegs. Puisque les bootlegs, avant ça, c'était des enregistrements pirates ou des lives volés. Et c'est devenu bootleg parce que c'est tout simplement impossible à commercialiser. Et moi, je préfère ce mot bootleg que le mot mash-up parce qu'il y a une dimension plus. Il y a une idée derrière ça, quoi. Il y a un manifeste.
Il y a un manifeste.
Le mash-up peut être légal, finalement.
Si on a les droits, ça devient légal. Mais c'est quoi le manifeste alors, DJ Zebra ? Celui de la libre circulation des œuvres ?
Le manifeste du bootlegger, c'est je produis le matin, j'envoie sur Internet l'après-midi et je le joue le soir. C'est immédiat. C'est comme un graffiti sur un train. Le train, après, il disparaît, il est nettoyé par les services. Et puis le lendemain, on en refait un autre. Et je trouvais ça vachement bien de comparer ça au graffiti, quoi. On est dans l'immédiateté et on n'est pas là pour laisser une trace. Maintenant, 10 ans après, il en reste des traces. Et dans le mash-up, finalement, il y a moins d'idées derrière tout ça.
Mais est-ce que c'est ce qui vous est arrivé, vous, sur Joey Star Wars, par exemple ? L'idée qui tombe, vous fabriquez, vous diffusez ?
Bah, l'idée, c'est que j'en parlais avec un pote bootlegger. Et il me disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette acapella de J'arrive de Joey Starr? Il y avait un côté martial et on trouvait que l'instrumental original n'était pas terrible. Donc, voilà, il y a aussi ce côté, on peut faire mieux quand même. il y a une autre très haute idée de ce qu'on a envie d'entendre dans la musique. Et en parlant de musique très martiale, j'en suis vite arrivé à la marche impériale de Star Wars. Et je dis, oh, ce serait bien si on pouvait le mélanger. Et puis ça rentrait très bien dedans, quoi. Et puis le titre est arrivé après, Joey Starr, Star Wars, Joey Star Wars.
Ah donc, oui, le jeu de mots est arrivé après.
Ouais, donc on se disait, bah, finalement, là, quand on parlait d'énergie qui s'ajoute, bah,
il y a une évidence. Ajouté. Tous les feux sont verts, Joey Star Wars.
Je cherche pas, t'auras pas le temps de comprendre. J'arrive, y'a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive, y'a une guerre qui se prépare, l'adrénaline est mon phare. J'arrive, Jaguar, Akara, Joey Starr. J'arrive, comme un régulateur, sans conscience, donc sans peur. J'arrive, j'ai l'instinct d'un tueur. J'ai un avion à réaction extrême. Adversaire ou ennemi, c'est la merde. J'arrive.
DJ Zebra, vous êtes aussi un homme de radio.
Oui.
Voilà, vous avez travaillé à France Inter, vous avez travaillé au Move, à Wii FM, Virgin Radio. Voilà,
je fais le tour. Ouais. Voilà, le tour. Je suis viré à chaque fois, je repars autre part.
Ouais, bah, tant mieux pour vous. Et puis, ça veut dire aussi qu'on a envie d'entendre vos mix. Alors, d'une part, j'imagine que le fait de pratiquer régulièrement en studio, ben, ça garde le muscle conscient. Enfin, il faut pratiquer pour continuer à pratiquer le bootleg.
Bah oui, c'est assez excitant de se dire que notre création chez nous sur un ordinateur va être diffusée sur une grande antenne le soir. Donc ouais, c'était très stimulant pendant des années. Ouais. Et notamment quand je pouvais rencontrer des artistes. Je sais, quand j'étais sur France Inter avec Laurent Lavie, j'y recevais des artistes. Ils me disaient, fais-moi un bootleg avec mon invité. Et on est, au fond, on voyait leur réaction. C'était genre, qu'est-ce qui se passe? C'était très drôle. Donc il y avait un côté, genre, qu'est-ce que t'as fait avec ma musique? Et après, on en parlait. Certains l'ont très, très bien pris, d'autres un peu moins.
C'est vrai.
Et ça m'a amené à faire de la scène avec eux parfois. Et
oui, ça c'est une forme d'aboutissement. Vous allez sur scène, notamment avec Kali.
Louis Attaque, Dioniso, Soxmo Puccino, j'en passe. On en a fait beaucoup.
Mais est-ce que c'est lié aussi à une pratique de radio? C'est pour ça que je parlais de votre activité radiophonique. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un lieu de mixage, de mélange, de montage. Ça va bien ensemble, quoi.
Je pense que c'est plus pour la radio, pour la télé. De toute façon, on peut reparler des images. Hein. Mais quand c'est vraiment... dans la télé, il y a le clip qui va avec, parce qu'on peut faire un complément en mélangeant les clips. Et là, on est dans un univers qui est déjà codé dans le clip des artistes eux-mêmes. Alors que dans la musique, quand on entend Joey Star Wars par exemple, là on a envie de voir Joey Star à la place de Dark Vador. Mais c'est pas possible, il faudra des moyens démesurés pour arriver à le faire. Donc à la radio, il y a le fantasme qui va avec, c'est parfait.
Vous avez discuté de tout ça avec des majors?
Ouais, ça a été assez loin à un moment. J'étais très lié avec le service juridique d'Universal pour que ça sorte, c'était en 2006. Et moi quand je mélange des chansons, je regarde pas les maisons de disques, je sais qui sont des artistes. Donc quand ils ont dit bon, il faut aller voir Sony, il faut aller voir EMI, il faut aller voir tout le monde, ils se sont dit que ça va être un casse-tête. Et en plus de ça, certains chefs de projet de maisons de disques étaient en pleine promotion des artistes dont j'utilise la musique. Ils disaient, ça va faire une concurrence. Donc là,
une logique qui n'est pas du tout celle du bootleg.
Au bout d'un an, on s'est rendu compte que ça resterait underground, mais c'était pas plus mal parce que ça reste complètement libre. C'est comme je parlais d'un graffiti, on peut retrouver le train encore 3-4 ans plus tard, finalement. C'est comme une espèce de quête de la toison d'or. Alors que si c'était sorti sur un disque, il serait resté une œuvre. Les seuls à avoir fait ça, c'est Too Many DJs en 2002. Et finalement, le disque maintenant est un peu daté. Alors que dans cet exercice comme ça de flow continu sur Internet et en radio, eh ben on, y a une compile virtuelle qu'on peut s'échanger et ça continue comme ça.
Et puis c'est l'air du temps quand on fabrique au présent.
C'est ça, c'est bien.
Il y a des majors qui vous ont demandé, qui ont commandé des bootlegs ?
Oui, bien sûr, ouais. J'en ai fait honteusement pour de l'argent. Mais des fois, ça allait trop loin. On me disait, voilà, mélange un artiste de ma maison de disque avec un autre de ma maison de disque. Je dis, oh là là, mais ça va être trop compliqué. Mmh. On va me demander des fois de mélanger Jeanne Masse avec Jeanne Masse, par exemple. Je dis, oh non, ça, je peux pas. C'est pas drôle. Finalement. Et donc, ça a rarement abouti. Ouais. Mmh. Non, par contre, mon grand regret, c'est qu'un jour, on m'avait filé toutes les bandes de téléphone en me disant, voilà, il y a un coffret des 30 ans de téléphone et le troisième disque du coffret, ça sera que des bootlegs. Je me suis régalé, j'avais tous les tubes de téléphone. Et finalement, c'est certains musiciens du groupe qu'on bloquait en disant « Ouais, mais ça ne nous ressemble pas. Bah, » Évidemment que ça ne ressemble pas. Ça me ressemble à moi.
Et oui, c'est ça. C'est la question de l'auteur. La question de l'auteur qui est au centre du mash-up et du bootleg. Lead Breakfast, ça, c'est un titre que vous proposez à l'écoute, Romuald Beugnon, pour l'émission de cet après-midi. Et c'est à la fois de la musique et de la citation cinématographique aussi. On est dans votre domaine.
Oui, absolument. Bah, là, c'est un travail d'un auteur qui s'appelle Pogo, que vous connaissez peut-être. Qui met pas mal de vidéos en ligne.
Et musicien électro-australien ?
Oui, c'est ça. Ouais. Et qui travaille à la fois le son et l'image, puisqu'il remixe. Alors, il travaille beaucoup sur Disney, mais là, c'est pas du Disney qu'on va écouter. Et maintenant, il est passé aussi de l'autre côté, puisqu'il mixe aussi ses propres images et ses propres sons sur des documentaires qu'il fait un peu partout dans le monde. Mais là, il y avait cette référence cinématographique qui me plaisait bien.
Une référence donc à Pulp Fiction. On entend des extraits de la bande originale, du son du film, ce qui est quand même assez fascinant dans cet extrait-là. Donc on peut voir en ligne, qu'on invite évidemment chacun à aller regarder, parce que on va entendre le son dans un instant, mais il y a des images aussi à voir. C'est que Pulp Fiction est un film plein de références, qui est lui-même très référencé sur des pratiques, une époque, énormément. Donc c'est un film pop pour ça. Et là, tout d'un coup, S'il y a quelqu'un comme donc Pogo qui se saisit de ce film référencé pour le transformer lui-même en référence. Donc là, on est vraiment dans... C'est de la pop au carré, Romuald Beugnon.
Voilà, mais en fait, c'est toujours les choses qui sont très fortes à l'origine, qui sont remixées et indéfiniment. Et Pulp Fiction, c'est partie des mythologies contemporaines, comme Star Wars. Mm. Et du coup, il y a quelque chose, il y a un élément de reconnaissance immédiate. On peut vraiment s'amuser avec ça, à la fois faire une œuvre de création et en même temps parler à tous ceux qui connaissent le film et à peu près tout le monde. Et du coup, voilà quoi.
Là, on est aussi dans le domaine de la parodie. C'est vrai qu'il y a plein de distinctions comme ça entre le mash-up, la parodie, la reprise. La version aussi, parce que dans la musique, voilà, la version, c'est un petit peu comme si on utilisait juste la cappella et qu'on recrée l'instrumental derrière. Et puis dans le film, je pense qu'il y a un équivalent aussi. Mais la parodie, c'est ce qui nous rapproche le plus, parce que cet élément un peu comique, ludique et distrayant, c'est ce qui a sauvé beaucoup de gens dans le milieu d'attaques juridiques. Il y avait toujours une jurisprudence derrière, donc finalement, c'est très bien.
Si on fait rire, on a un peu plus le droit. Mash-up, création, citation. Lead Breakfast, Pogo.
Hey kid. This is a tasty burger. Burger. Burger.
Sounds like you actually have something to say.
Fuck me, that matters. Straight down.
Door.
Oh, fuck me. Do you ask?
I'm the foot fucking master.
Fuck me, that matters. Straight down.
Door.
Oh, fuck me. Do you ask?
Fucking good milkshake.
The dentist want that.
Voilà, donc vous reconnaîtrez la voix de Samuel Jackson si vous tendez l'oreille, par exemple, dans ce qu'on vient d'entendre. Alors, il est temps de parler de votre mashup table, Romuald Beugnon. La mashup table, vous avez eu cette idée-là, donc cette vraie table, hein, c'est une vraie table de mixage. Vous en avez eu l'idée comment? Parce que voilà, il faut réussir à imaginer cet objet-là. Vous êtes inventeur.
Oui, alors c'est assez difficile à décrire avec des mots, mais je vais essayer. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'éducation à l'image, donc où j'apprenais à des jeunes à faire des films. Et ce qui était difficile, toujours, c'était la partie du montage, parce que moi, je n'avais pas envie que les ados, ou les jeunes, les enfants, pensent que le montage était une étape technique. Pour moi, c'est un langage.
C'est une écriture.
C'est une écriture.
Ça, c'est vrai quand on voit les vidéos, quand on voit votre mashup table, les vidéos qui la présentent, on voit qu'on écrit avec les images.
Voilà, c'est ce que Truffaut disait. Excusez-moi. C'est la troisième écriture.
Oh, c'est très bien, vous pouvez continuer.
C'est la troisième écriture du film. C'est le montage, et sur un film de montage, ça peut être la première écriture. Et donc
c'est une table.
Voilà, c'est une table. Moi, on me dit qu'il faut faire une table de montage. Je suis assez basique comme garçon, donc je fabrique une table de salon où on peut monter des images. Moi, je suis assez vieux pour avoir appris à faire du montage avec de la pellicule. On tenait l'image dans la main. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est important qu'on tienne l'image dans la main. Mm-hmm. Donc, ce sont des photos. Et quand on pose la photo sur la table, c'est assez difficile à expliquer, mais quand on pose la photo sur la table, sur un écran de cinéma, la vidéo qui correspond s'affiche.
Mm-hmm. Et donc c'est une séquence.
C'est une séquence
qui se déroule.
Un plan.
Ouais.
Et donc, on va mettre un deuxième carton, on va avoir une deuxième vidéo, un troisième, une quatrième, etc. Et une carte où il y a tout bêtement écrit « Monter ». Quand on pose la carte « Monter », le film apparaît. Et là, après, c'est un appel au détournement, puisqu'on peut utiliser un micro pour poser sa voix sur les images.
Il y a aussi des cartes de son.
Et on a aussi des cartes de son. Et là, c'est plus le geste du DJ. Mm-hmm. C'est-à-dire autant d'un côté.
C'est un écran tactile, en fait.
Non, c'est pas un écran tactile, justement. C'est-à-dire, parce qu'un dispositif tactile, c'est ça qui est compliqué à visualiser quand on n'a pas d'image. Un écran tactile, c'est un. Tout le monde a ça dans sa poche. Mm. C'est-à-dire que les objets n'existent que dans l'écran.
Ouais.
Alors que là. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des enfants, et même je travaillais récemment avec des enfants de maternelle. Et les enfants partent en courant avec les photos, ils se les distribuent, ils choisissent, et ils reviennent me voir avec 4 ou 5 photos en disant « Monsieur, j'ai un film dans la main ».
Ce qui est étonnant, c'est quand on voit comment fonctionne votre mashup table, Romuald Beugnon, c'est qu'il y a à la fois un côté très pratique, très instinctif, on a l'impression, face à cet objet-là, et notamment de la part des enfants, puis quelque chose de très collectif, une sorte de jubilation à créer ensemble, à imaginer à partir des séquences que vous leur proposez, et des sons aussi. Il y a cette jubilation de fabriquer. Et en fait, c'est quelque chose de très concret qui est initialement dans votre projet.
Voilà, c'est ça. C'était le fait qu'on puisse toucher les images et qu'on puisse travailler ensemble. Là, quand j'anime des ateliers avec la table ou quand je fais des démonstrations, que les gens viennent, ils peuvent être à 7 ou 8 autour de la table à se partager les images, à essayer d'inventer ensemble. Et là où je commence à être vraiment content, c'est quand je vois que les gens se disputent. C'est-à-dire quand ils commencent à dire « Mais non, mais cette image-là, elle ne peut pas être là, elle est forcément ici » et qu'ils déplacent comme ça, qu'ils s'arrachent les images des mains, j'ai l'impression d'avoir gagné. Je me suis dit, ça y est, ils sont dans une position de créateur, de recréateur, parce que ça y est, ils se sont vraiment appropriés à la fois l'outil et les images. Et ce qui est assez drôle, c'est que autant un adulte va me dire tout de suite comment ça marche, c'est magique votre truc, autant avec les petits, c'est vraiment à la toute fin qu'ils disent au fait, comment ça marche monsieur. Mais ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a un côté magique. Mmh. On fait un tour de magie ensemble avec des cartes, on pose des cartes, il y a un film qui apparaît. Je mets ma carte musicale vers le haut, elle est forte, je la mets vers le bas, elle est moins forte. Je pose la carte chat, ça fait miaou. Et voilà.
Vous avez déjà vu, il y a des enfants de 3 ans qui racontent une histoire avec ça.
Oui.
Ouais.
Voilà, ma fille.
Oui.
Voilà, ma fille récemment a fait un slam sur le caca, mais bon, ça, ouais. sur les images, mais c'était super. Mais non, j'ai d'autres enfants de 3 ans qui ont fait des films avec. Ouais. Donc là, récemment, je suis intervenu dans une classe de moyens, donc des enfants de 4 à 5 ans, et ils ont vraiment fait des films super. Et
vous dites que le mieux, c'est quand vous retirez du jeu, en fait.
Voilà, moi, en tant qu'intervenant, c'est quand je n'interviens plus. Mm-hmm. Quand je n'interviens plus, quand je laisse les cartes, que je vais boire un café, que je reviens, et qu'ils m'ont dit, on a une histoire, ça y est, on a quelque chose. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je n'interviens pas, mais c'est le. Parfois, c'est le choix des images que je vais proposer qui vont en fait être mon intervention. C'est-à-dire là, j'ai un corpus qui est issu d'un fonds d'images libres de droit années 50 américaines. Et avec ce corpus d'images-là, très souvent, parce que c'est moi qui ai choisi ces images-là, les jeunes, ou même les adultes, hein, parce que je travaille aussi avec des adultes, vont faire des films qui vont parler des différences entre garçons et filles, sur des rôles de genre, etc. Parce que la sélection que j'ai fait...
Ouh, c'est subversif, ça.
Voilà, mais la sélection que j'ai fait va porter ces thèmes-là. Mm-hmm. Puisque c'est les films d'années 50, donc on a beaucoup de femmes qui passent l'aspirateur, d'hommes au travail avec leur cravate. Et naturellement, les enfants sont amenés à s'interroger là-dessus. Mm-hmm. J'ai un corpus sur le péplum. On a d'autres résultats qui sont très amusants.
Et toi, t'es malin parce que quand tu vas boire un café pendant ce temps-là, tu laisses les idées se propager. Quoi.
Voilà.
Bravo.
Il a fait le boulot en amont puisqu'il a inventé, Romuald Benyon, cette mashup table donc, qui continue de tourner. Comment on se renseigne? Il y a un site hein, pour.
Alors, oui, c'est mashuptable.fr.
Et on peut faire appel à vous pour intervenir?
Voilà, on peut faire appel à moi pour intervenir. Il y a aussi d'autres tables qui circulent parce qu'en fait, c'est un projet qui a été soutenu par quatre régions. Mm-hmm. Donc, qui ont la région Picardie, la région Centre, la région PACA et la
Franche-Comté.
Et Franche-Comté, ouais. Voilà, les quatre.
C'est bien. Ils
seront contents que je les ai cités.
Pour tout ce qui est éducation à l'image, les régions interviennent. En l'occurrence, voilà, ça devrait avoir votre projet.
Voilà, c'est dans les pôles d'éducation à l'image. Voilà.
Je me frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'ai envie, moi, depuis ce matin. Au cœur de cette nuit vaincue, j'ai vu, j'ai su que c'était foutu. J'allais vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, ouais, je m'en vais. Que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier. Entre le fromage et le dessert, comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau et les papiers de verre sous mes doigts. Sous mes doigts, je te regarde et je pleure juste pour rien, comme ça. Sans raison, je pleure à gros bouillons, je pleure comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là, 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 là.
À l'acrobate. Kali en live, plus U2, plus White Stripes, c'était sur le plateau de Taratata il y a quelques années, DJ Zebra, c'est vous qui aviez organisé ça. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, Kali en vrai qui accepte d'être mashupé en face de vous.
Détourné, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est assez marrant. Cali, c'est un bon client, comme je le disais, parce qu'on peut imaginer que ce genre d'exercice à faire en live entre un DJ et un chanteur, c'est plutôt fait pour le hip-hop. Ils sont habitués à chanter sur des samples, c'est dans leur culture. Et en fait, le premier qui est venu faire ça avec moi, c'est lui. C'est, je l'ai rencontré à Solidays en 2006 et j'avais réalisé un de ses fantasmes, le faire chanter avec Bono de U2. Il est super fan de U2. Et quand je lui ai fait écouter ça, il fait « Ah, c'est le plus beau des cadeaux !» Il dit « Ouais, on le fait sur scène, ça, une espèce de challenge. Ouais. » Et on a été répéter ça dans ma voiture en écoutant l'instrumental.
Ah, immédiatement, quoi, ça s'est passé
immédiatement.
Tout de suite.
Je me souviens, on était comme ça sur le parking de Solidays et puis il le chante deux fois. Il fait « Ouais, tu me fais des signes ce soir, c'est bon. » Et à 1h du matin, on était sur la scène de Solidays et hop, on l'a tenté. Il s'est très bien débrouillé.
Ouais.
Donc après, voilà ce qu'on a entendu à l'instant. C'était un extrait de Taratata. C'était 4 ou 5 mois plus tard. Ouais. Mm-hmm.
Mais alors, vous dites que vous avez quitté le monde du bootleg il y a 2 ans. Est-ce que c'était une manière, ça est-ce que c'était une forme de je ne sais pas si on peut dire consécration, en tout cas de summum dans l'art du bootleg, c'est de le faire en vrai avec les artistes eux-mêmes. Et après, voilà, il faut passer à autre chose quoi, après ça.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais un petit peu détourné toutes mes chansons préférées.
Ouais.
Il manquait un peu de matière.
Il faut aimer la chanson qu'on détourne alors.
Oui, ça c'est. Ouais. Ah oui, je pense que dans le mash-up, il faut vraiment aimer ses sources. Ou alors des fois, ça nous ouvre l'esprit. Je me souviens d'artistes que je n'aimais pas forcément. Je pense à un cas, par exemple, Diams. Je n'étais pas vraiment sensible à sa musique. Mais avec la capella, une fois que je l'ai eu tout seul, je me suis dit, oh, elle a une super voix, il y a moyen de faire quelque chose. Et je me suis mis à aimer ses chansons parce que sa voix était sur un autre instrumental. Donc l'ouverture d'esprit, ça fait partie de l'exercice. Donc j'étais tout le temps demandeur comme ça, étonnez-moi. Enfin, j'essaie de m'étonner moi-même. Et puis quand ça a cessé de m'étonner, parce que c'est devenu une routine, une habitude, et puis que finalement ça choquait beaucoup moins de gens qu'au début. Moi, j'aimais bien me faire insulter par les fans, les fans de Radiohead qui me disaient mais t'as pas le droit de faire ça, c'est intouchable Radiohead. Et puis finalement après, c'est rentré un petit peu dans les habitudes. Donc moi, je me suis dit autant retrouver cette subversion dans un autre genre. Et là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec des orchestres d'harmonie, un bagat breton, parce que aucun DJ n'est sur ces terrains-là.
Mais est-ce que ça veut dire que derrière le bootleg, on ne reconnaît pas le talent, l'oreille de producteur que vous êtes quand vous faites un bootleg?
Je pense qu'on le reconnaît, mais on l'utilise pas assez. Ouais. Enfin, l'industrie musicale, puisque finalement c'est là qu'on aurait dû être, nous tous les bootleggers qui
dans le monde entier. C'est quand même l'oreille musicale, c'est quelque chose de. Alors, en tant que deux morceaux qui n'ont rien à voir peuvent être mariés, il faut une certaine oreille quoi, musicale.
Faut une vraie ouverture d'esprit. Ouais. Je pense que l'oreille, certains producteurs l'ont, mais ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas le temps. Donc il ferait mieux de confier des projets à des gens comme nous. Et puis nous, on aurait bien aimé comme ça de consulter, être en studio avec les gens, et puis ça ne s'est pas vraiment produit. Donc au bout d'un moment, l'envie de produire et d'avoir un répertoire à nous, ça s'est exprimé sur un autre terrain, enfin me concernant. Et c'est le cas pour beaucoup de bootleggers musiciens, ça je tiens à le dire, parce que la plupart des gens comme moi, on était musiciens avant, on pratiquait la musique. Donc on est revenu à
bassiste
ça.
Bassiste de Billy the Kick.
Ah oui,
vous étiez au début
il y a 20 ans.
90, voilà.
Et maintenant, mes idées de mash-up, elles s'appliquent dans mes propres productions originales.
Ouais. Est-ce que sans votre pratique régulière du bootleg que vous avez eu, du mash-up DJ Zebra, y aurait eu ce projet, par exemple, Mambo Punk, que vous menez avec Stéphane Montigné et Nicolas Puiset?
Non, effectivement, Mambo Punk, ça sonne comme un mash-up. Hein.
Déjà, c'est vrai. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une influence sur votre pratique aujourd'hui de la musique? Est-ce que ça vous a changé quoi?
Complètement. Moi, si je suis arrivé sur ce terrain-là, c'est parce que je n'ai pas de style de prédilection. Quand c'est arrivé, quand j'ai entendu les premiers bootlegs anglais, je me dis voilà, on peut faire un set de DJ pendant une heure en passant du coq à l'âne, en passant par la poule et l'œuf, quoi. Et du rock au funk à l'électro ou hip-hop. Et puis finalement, quand je fais maintenant mon groupe qui s'appelle Mambo Punk, c'est encore une fois l'envie de tout mélanger. Je ne peux pas faire un seul style.
Romuald Beugnon, vous-même, votre approche du mash-up, est-ce que ça influence votre écriture cinématographique, puisque vous êtes réalisateur?
Dans mon écriture cinématographique, déjà, j'ai toujours été à la croisée des genres, à chercher à mélanger des genres. Mon premier long métrage, c'est une comédie policière dans une maison de retraite, avec des parties chantées. Et donc voilà, j'étais déjà avec un côté aussi film social, avec assez attentif aux conditions de vie des personnes âgées. Donc voilà, c'était un objet
Brouillard,
hybride.
Jean-Pierre Cassel, Micheline Prel, voilà, c'est un certain générique.
Voilà, un beau casting que j'ai mis 5 ans à réunir, avec beaucoup d'inconscience, d'appeler quelqu'un comme Jean-Pierre Cassel pour lui demander de jouer un policier à la retraite. Donc déjà dans ma pratique, j'étais dans une pratique comme ça de mélange des genres, de mélange des styles.
Ça fait partie de vous?
Ça fait partie de moi, c'est-à-dire que j'ai jamais su dire, quand on me posait la question, quel est ton style de cinéma préféré, quel est ton réalisateur préféré, j'ai dit, j'aime tout et j'aime tout mélanger. Donc ça a toujours été ça. Puis j'ai aussi une pratique de VJ, notamment j'avais remixé le festival Pocket Film, j'avais remixé l'intégralité des 80 films, et ça avait fait la clôture du dernier festival Pocket Film. Le festival d'après, c'est le festival Mashup.
Le Mashup Festival qui a lieu chaque année, qui a lieu il y a 15 jours à Paris.
Ouais.
« 16h52, c'est le poème du jour, issu, comme c'était le cas depuis lundi, du recueil « Ni terre ni mer » de Piero Bigongiari, dans une traduction d'Antoine Fongaro. C'est lu par Michel Favori de la Comédie Française.
« Non l'être, mais les êtres. Ombre d'une ombre, mais elle te désigne. Elle désigne le soleil, ombre d'une ombre. Des violettes, rapides, attendrissent la terre, violent l'ombre d'une ombre d'un soleil. Il reste des traces. La terre se remodèle en nouveau modèle. Ombre d'une ombre, les violettes tremblent dans le doigt dessiné sur la pierre et qui désignait quelque chose à Hiroshima. Et toi qui penses, candide pensée, ombre d'une ombre sur la pierre, laisse que te ramasse fondu, provisoire, liquide entre les doigts, celui qui ne sait pas, l'enfant qui regarde l'ombre et rit. Déjà elle est à demi vide la besace, il s'accroisse les détritus, et l'ordre désordonne davantage en profondeur. Les pierres sourient. Elle ne rit pas les lèvres déjà détachées de l'amour, entr'ouvertes, prêtes à la parole. Le geste se repose encore un peu dans le sang et déjà se dégage pensif. Mais qui donc reconnaît l'un dans l'autre l'objet aimé et le désaimé? Qui sépare l'origine de la fin?
Pop culture Madéon, 39 citations dans un seul morceau. Je crois que c'est vous, Romuald Benyon, qui avez proposé qu'on écoute ça cet après-midi. Je me trompe?
Oui.
Voilà.
Non, c'est vous qui vous trompez.
Ah, je me trompe, d'accord. Par contre, vous connaissez DJ Zebra.
Oui, 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 c'est un DJ connu pour, parce qu'il fait ça avec une table à, avec des patchs comme ça, où il envoie plein de sons. C'est assez spectaculaire, quoi, sa façon de procéder. Mais c'est plus dans l'ordre du collage que du mash-up pour moi.
Ah ouais, parce qu'il y a trop? C'est parce qu'il n'y a pas d'unité, parce que...
Non, parce qu'on ne sent pas le détournement. On sent qu'il y a un travail très technique. Pour moi, quand on parlait au début, moi, mon sens, c'est que le mash-up, on doit tout à fait une espèce de truc immédiat. On dit, oh là là, il a mélangé des codes très précis ensemble, quoi. Là, effectivement, c'est un travail très technique qui est vachement bien, d'ailleurs. Voilà.
Est-ce que vous êtes prêt à vous faire mash-upper et bootlegger vous-même maintenant que vous êtes passé de l'autre côté?
Ah, c'est déjà arrivé, et j'ai adoré ça.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Ah,
quel effet?
C'est très curieux, quoi, de se dire, tiens, on m'a mis dans un autre univers, que quelqu'un se permette d'aller prendre une idée qui nous a appartenu, dans laquelle on se sent vraiment bien. Voilà, quand même, quand on réalise une œuvre, ça nous... Entre la création et la réalisation, il y a bien un an et demi, on est vraiment avec sa chanson, avec son truc. Tout d'un coup, que quelqu'un d'autre, en une journée, le détruise tout et recompose tout, c'est très stimulant. Donc moi, je suis ouvert à ça et ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais.
Qui a fait ça?
Oh bah plusieurs, des copains quoi, à qui j'ai donné mes a cappella. Après, on m'a mélangé à tout et rien. Et plus c'est tordu, plus j'aime.
Romuald Beugnon, vous avez essayé de donner votre mash-up table à un cinéaste installé?
À part ma pratique de VJ avec la table, pour l'instant, il n'y a pas eu de pratique artistique de la mash-up table. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie qu'on essaye. Il fait y avoir quelque chose cette année au Mashup Film Festival. L'idée de que je forme un cinéaste à l'utilisation de la table, ça n'a pas pu se faire. Mais ça, c'est quelque chose qui me tente bien. C'est-à-dire de sortir de côté éducation à l'image. On apprend à manipuler. On s'amuse en oubliant la technique. Mais pour aussi que soit on s'amuse en buant la technique, mais avec quelqu'un dont ce serait déjà le premier langage à la base.
Ouais. Le Mashup Film Festival, on ne l'a pas dit, tout à l'heure, ça se passe au Forum des Images, donc chaque année, grosso modo, au mois de juin. Donc ça se passe à Paris. Et donc vous en êtes régulièrement un témoin. Vous intervenez là-bas, Romuald Beugnon. Vous avez présenté d'ailleurs, je crois, le premier prototype de Mashup Table s'est présenté là-bas.
Oui, à l'époque, ça s'appelait, c'était une cuisine, en fait, une cuisine entière. Et j'avais remplacé la plaque de cuisson par la plaque qui permettait de cuire les films. J'étais déguisé en cuisinier. En fait, pour monter le film, il fallait poser les cartons dans la casserole. Ça s'appelait le mash-up cooker. Ça, c'était ma première création.
Mash-up cooker, j'adore le concept.
Vous avez des choses à vous raconter tous les deux. Vous ne connaissiez pas avant ce.
Non. Mais on se comprend.
Mais oui, j'ai l'impression que vous parliez même langage. Est-ce qu'il y a une communauté, Romuald Beugnon, qui se rencontre éventuellement au Mash-up Film Festival de mash-upers potentiels?
Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et en fait, moi, je retrouve des gens qui étaient dans la communauté VJ et aussi des gens qui étaient dans la communauté des blogs vidéo. En fait, c'est toute cette communauté vidéo de gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans la création mainstream et qui ne se reconnaissent pas non plus dans un système de production où il faut attendre l'autorisation pour tourner, pour monter, pour faire.
Et concernant la musique et les gens qui font du bootleg et du mashup, il y a un site sur lequel il faut aller, parce qu'en France, on est très actif, qui s'appelle bootlegsfr.com, B2OTLEGSFR.com.
C'est dit et c'est même éplé. Merci beaucoup, Romuald Beugnon et DJ Zebra, d'être venus cet après-midi nous parler mashup et bootleg et de terminer ainsi la saison de Pas la peine de crier. L'émission sera comme les autres, réécoutable, commentable et podcastable sur franceculture.fr. À la technique cet après-midi, il y avait Clément Berman. L'émission est préparée et coordonnée par Inès Duperron, Cyril Bert et Romain de Bec de Lièvre. Et à la réalisation, bien entendu, c'était Anne-Laure Chanel. Merci à toute l'équipe de m'avoir coaché pour ce jeu de rôle ponctuel. Et évidemment à Marie Richeux herself qu'on embrasse. Normalement, dans quelques secondes, vous retrouvez sur la route.